politique.
J'ai informé le Premier ministre Trudeau de ma décision de ne pas être candidat à l'élection de 2019.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors ça, c'est sans aucun doute la nouvelle politique du jour. C'est quand même un ministre important que vous venez d'entendre, Scott Bryson, donc qui était président du Conseil du Trésor, en d'autres mots, le grand argentier, celui qui signe les chèques, si vous voulez, qui a annoncé ce matin, donc, qu'il ne serait... Non seulement il ne sera pas candidat à sa réélection en octobre prochain, aux élections fédérales, mais il démissionne de son poste de ministre dès maintenant. Donc, Carl va nous en donner plus de détails dans un instant. Parce que je veux, avant d'aller à Scott Bryson, je veux qu'on termine la discussion sur l'Église et l'éducation sexuelle. Parce que Paul Journet, c'est quand même votre journal, La Presse,
oui.
Et votre reporter, Philippe Tessera-Lessard, qui est un excellent journaliste, qui a sorti cette nouvelle-là. Alors là, je vous le résume là, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Un porte-parole du diocèse de Québec, donc de l'Église catholique à Québec, vient de nous dire sur les ondes qu'il a parlé à des responsables à Montréal, à l'archevêché de Montréal, et l'archevêché de Montréal devrait émettre dans les prochaines heures un communiqué pour dire c'est pas vrai qu'on souhaite que les enfants soient retirés du cours d'éducation sexuelle, c'est pas notre position, et puis le fameux livre qui vise à aider les parents à donner eux-mêmes le cours à la maison, ben c'est une initiative personnelle, même si l'auteur Robert Gendreau est un abbé chez nous, qu'il est responsable de la pastorale liturgique à l'archevêché. Il parle pas en notre nom, il parle en son nom personnel. Et même si l'Église, l'archevêché, a recommandé la lecture du livre dans son infolettre, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec l'idée de retirer les enfants des cours. En résumé, Paul, c'est ça la situation.
Exactement.
Enchaîne là-dessus, mon ami.
Oui. Ben, écoute, faut juste remettre ça en contexte. Là. Le cours d'éducation sexuelle, c'est un nouveau cours. C'est pas beaucoup d'heures. Hein. C'est 5 heures par année au primaire.
Puis il faut dire
15 heures par année au secondaire.
C'est introduit dans les autres cours. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas avoir un 10-15 minutes d'éducation sexuelle dans le cours de français ou un 10-15 minutes dans le cours de mathématiques, dépendamment des profs qui veulent le donner.
Oui. Puis on savait déjà que des groupes religieux s'objectaient à tout ce qui était enseignement moral. Souviens-toi, tu as entre autres des évangélistes qui étaient allés en cours pour essayer d'obtenir une exemption du cours d'éducation de culture religieuse, éthique et culture religieuse. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, ils constatent que cette voie-là est probablement bloquée. Et ils constatent aussi qu'on ne va pas permettre aux élèves d'être exemptés du cours, à part quelques exemptions vraiment là, hyper rares, du genre un jeune enfant qui a été victime d'agression sexuelle, pour lui, c'est traumatisant
de subir ce cours-là. Qui a été témoin d'une agression sexuelle.
Exactement. Oui, oui. Mais c'est vraiment des cas très, très pointus. On ne prévoit pas d'exemption pour des raisons idéologiques. Puis là, tu as des groupes religieux qui ont une petite ruse. Ils disent « Ah, ben peut-être qu'on pourrait demander aux parents, proposer aux parents de donner l'éducation à la maison. » C'est-à-dire, je suis un parent, mettons, évangéliste ou d'une autre confession religieuse, qui ne veut pas que l'enfant ait ce cours-là, constate que l'enfant est obligé de le suivre, ben, il va voir le prof et il dit « Le cours, OK, mon enfant va le suivre, mais il va le suivre à la maison avec moi. » Et là, c'est ça que l'abbé a proposé, puis il donne un manuel, puis il dit quoi enseigner, puis on le voit, c'est assez stupéfiant, le contenu de cet enseignement-là. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que il y a dans plusieurs écoles du Grand Montréal, il y a des parents de différentes confessions religieuses qui sont mal à l'aise.
Il n'y a pas juste les catholiques et les évangélistes.
Non, pas du tout. Hein? La différence, c'est que dans le cas de l'abbé, on a un document écrit noir sur blanc auquel on peut se référer.
Exact.
Mais je ne doute pas que ce soit pas ce qu'il y a des croyants d'autres religions.
On sait par exemple qu'il y a des personnes de confession musulmane, on le sait, c'est connu, qui font pression ou qui ont fait pression pour que leurs enfants soient retirés du cours. Ça, c'est documenté.
Oui.
Puis il y a d'autres religions
puis
aussi.
Puis peut-être qu'il y a des documents aussi auxquels on n'a pas accès ou si on y a accès, on ne lit pas tout simplement.
On sait
langue.
Que
la
communauté juive orthodoxe aussi a des... Souvent, ils ont, mettons, un préjugé très favorable à l'éducation à la maison, notamment, je devrais même dire surtout pour des raisons religieuses.
Puis je vais donner un autre moyen de pression super insidieux qui est utilisé et dont on n'a pas parlé beaucoup. le cours est donné par des volontaires dans les écoles.
Oui.
C'est normal parce que c'est seulement 5 heures dans l'année, donc tu ne vas pas avoir un prof qui est payé pour
ben non,
ça. Et vu que c'est un volontaire, ben c'est pas toujours facile à trouver. Et là, moi, je suis un parent ou je suis un groupe hyper religieux organisé. Je vais aller faire pression dans l'école en disant, est-ce que ça vous tente vraiment d'ajouter ça à votre charge de travail puis venir meurter dans mes sensibilités religieuses? Et puis, ils peuvent commencer à faire pression pour qu'il n'y ait personne qui se porte volontaire à donner le cours.
Puis je vais dire une chose.
C'est un autre moyen de pression qui m'inquiète.
Puis Paul, je vais dire, tu es un enseignant, mettons, là, qui était ouvert à donner le cours là, dans une école. Là. Mettons... deuxième année du primaire, moment d'occuper. OK, c'est moi qui vais le faire. T'entends parler là, du fait que t'as des parents de différentes confessions religieuses qui vont venir te voir pour te faire, pour te dire, ben sais-tu quoi, quand ça va arriver, laisse sortir mon enfant de la classe, envoie-le à la bibliothèque parce que c'est moi qui va s'en occuper. Ça te donne-tu le goût de l'enseigner, ce cours-là, quand tu sais que tu risques de composer avec des pressions de parents, puis des démarches de parents, puis du lobbying de parents?
Puis encore une fois, tu sais que tu n'as rien à gagner. Les syndicats se plaignent qu'il n'y a pas eu suffisamment de formation.
Bye-bye.
Puis là, on devrait aussi préciser, on dit les parents religieux, mais tu as beaucoup de gens qui sont de culture religieuse ou qui sont religieux, mais modérément pratiquants, qui ne voient aucune objection. On parle de minorités
très bruyantes, oui, 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 oui.
Intégristes ou proches de l'intégrisme, mais ça prend... On est carrément, on pourrait dire qu'on est dans une certaine mesure dans le sujet du droit à l'enfance. Puis on est là pour, même s'il n'y a pas tant de cas, les dommages qu'on peut causer à un ou un petit groupe d'enfants sont en eux-mêmes très, très, très inquiétants.
Très bien. Alors, on va suivre ça. Et évidemment, dès qu'on aura des nouvelles de l'archevêché de Montréal, c'est pas impossible que ça se passe pendant notre émission. Alors, évidemment, on vous en fera part. On est en contact avec l'archevêché de Montréal et de la même manière qu'on aura été les premiers à vous dire qu'ils ont l'intention de s'en dissocier du fameux document, on espère être les premiers aussi à vous confirmer l'existence du fameux communiqué. OK, on s'en va rejoindre Carl.
Bonjour.
Ottawa. Comment est-ce qu'il va, notre Carl?
En pleine forme.
Bon, alors ça, c'est une grosse nouvelle parce que personne ne l'avait venu. Hein, Scott Bryson, il faut quand même dire, là, il a été longtemps député conservateur. Hein, moi, je l'ai connu comme député conservateur. Et à un moment donné, il a quitté les conservateurs, si je ne m'abuse, au moment de la fusion avec l'Alliance. Hein, je pense qu'il ne se reconnaissait pas.
Hein, il se reconnaissait quatre jours après la fusion, Bryson a dit « je m'en vais ».
C'est
Vous vous rappelez que Bryson avait été candidat à la chefferie du Parti progressiste conservateur.
C'est ça, bon.
Et quand il a perdu, puis la fusion, ben, il a dit « non, je peux pas rester ».
Puis il a dit ça parce qu'il se considérait vraiment comme pas juste un conservateur, mais un progressiste conservateur, il faut dire, puis il l'a reconnu ouvertement, je pense qu'il y a un certain nombre d'années de ça, il est ouvertement homosexuel.
Oui, au début des années 2000. Là.
Voilà, et je pense que ça faisait partie aussi, je pense qu'il avait un inconfort avec la fermeture d'esprit, mettons, qu'il sentait dans un certain courant de droite par rapport à la question de l'homosexualité.
Il est marié.
Est-ce qu'ils n'ont pas des enfants, d'ailleurs?
Des jumelles.
Voilà,
deux
exactement.
Jumelles. Ouais.
Exactement. Alors, bref, il annonce qu'il quitte. Et pourquoi il quitte?
Bien, ça, c'est une très bonne question. Il a annoncé ça ce matin sur les réseaux sociaux. Et lui, il donne trois raisons. On peut l'écouter.
There are three main reasons for my decision. First, I've served as a member of parliament for 7 terms. I'm proud of what I've helped accomplish. Second, I'm ready for a change. They say life begins at 50. Well, I'm 51 and ready for new challenges. Third, and most important, is my family.
Voilà, alors la famille, le goût du changement et le fait qu'il a fait 7 mandats comme député, c'est pas rien.
C'est pas rien. Mais c'est toute une carrière qu'il a eue. Il n'est pas à douter de ça. Moi,
c'est une grosse perte pour Trudeau. Grosse perte pour Trudeau, Carl. Parce que faut se rappeler, les libéraux, aux dernières élections, les libéraux de Justin Trudeau ont remporté 32 comtés sur 32 dans les régions de l'Atlantique, dans les 4 provinces atlantiques. Et Bryson, je me trompe pas, hein, si je dis que c'était probablement le ministre le plus important de la région atlantique ou un des plus importants.
Est très important. Évidemment, quand t'es président du Conseil du Trésor, tu l'as dit tantôt, tu contrôles les chèques, t'as beaucoup d'influence. Et c'est là où je m'amène à me poser une question sur peut-être une quatrième raison pour laquelle Scott Bryson s'en va à ce moment-ci. Et c'est l'affaire du vice-admiral Mark Norman. Mark Norman, qui était celui qui est présentement accusé d'avoir coulé de l'information confidentielle du gouvernement reliée au contrat du fameux navire de ravitaillement Astérix qui était accordé à la Davy. Un contrat qui a été revu par Scott Bryson. C'est lui qui a mené la charge pour ça suite à des pressions des Irving.
Ah, voilà.
Et là,
les Irving, les Irving qui sont la famille, probablement la famille la plus puissante, avec des chantiers maritimes, à Halifax, les journaux, les raffineries, la grande raffinerie de St. John's, là où devait aboutir le fameux pipeline d'énergie S, c'était dans la raffinerie des Irving, justement, au Nouveau-Brunswick.
Et les terres au Nouveau-Brunswick, justement, les terres à bois, ça appartient toutes aux Irving.
Si tu as traversé en voiture le Nouveau-Brunswick, puis tu as pris quelques routes rurales, là, de gauche à droite, là, d'un part et d'autre du chemin, là, les petites pancartes Irving à côté des épinettes, là, hein,
c'est ça. C'est tout. Écoute. Ça appartient à la famille Irving et on dit que Bryson est très proche des Irving. Donc, il aurait demandé une révision du contrat avec objectif peut-être de l'annuler pour qu'on rouvre le processus pour que peut-être Irving l'obtienne.
Pour favoriser Irving.
Pour favoriser Irving, possiblement, c'est ce qui est allégué.
Alors là, il y a un procès en cours, c'est ça, là?
Et parce que Mark Norman, lui, aurait coulé de l'information pour faire avorter cette tentative de donner ce contrat-là à une autre compagnie que la Davy, parce qu'évidemment, le processus était déjà en marche, il y avait un besoin urgent. Or, ce procès-là va débuter fin août, septembre. Scott Bryson, identifié par la défense comme un témoin clé.
Juste avant l'élection.
Le Parti libéral veut pas aller en élection avec le ministre le plus important de l'Atlantique devant un juge à se défendre d'allégations que la défense va certainement soulever par rapport aux agissements de Scott Bryson dans ce dossier-là. Alors, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle on annonce son départ à ce moment-ci? Je me pose la question.
Oh non, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Mais je veux juste être bien clair. Ce qui est allégué, puis on insiste là-dessus, ce qui est allégué, c'est que les Irving auraient manigancé, là, possiblement avec des sympathies gouvernementales, on va dire ça comme ça, pour faire en sorte, dans le fond, que la Davy n'obtienne pas de contrat, n'obtienne pas ce contrat. C'est ça? C'est ce qu'on comprend?
Mais en fait, le contrat avait été déjà donné à la Davy juste avant l'élection fédérale de 2015 par Stephen Harper. On avait court-circuité un peu le processus parce qu'on avait besoin de ce navire-là rapidement. La Irving était pas contente, a écrit une lettre au nouveau gouvernement en disant « Écoutez, on n'a pas suivi les règles, faut revoir ça. » C-SPAN en Colombie-Britannique avait fait la même chose. Mark Norman, ce qui est allégué
Mark
dans
Norman,
son
ça,
cas,
c'est le militaire.
C'est le vice-admiral.
Hein?
Et il est allégué que lui a coulé de l'information confidentielle pour favoriser la Davy, pour empêcher que le plan de Irving et d'obtenir ce contrat-là se déroule comme il le voudrait. Alors, là, il y a évidemment, tu sais, quand on coule de l'information à Ottawa, ça coule plus rapidement que le Titanic. Il y a des informations qui coulent partout. Dans le cas de Mark Norman, on le poursuit au criminel.
C'est quelque chose.
Alors, Scott Bryson, identifié comme témoin, un procès qui aura lieu tout juste avant l'élection. Moi, je me dis que peut-être c'est une des raisons pour laquelle Scott Bryson démissionne à ce moment-ci.
Tu poses une excellente question.
Ceci étant dit, écoute, les rumeurs de remaniement couraient à Ottawa depuis quelques jours.
Mais il vient d'en faire un, il n'y a pas si longtemps que ça, un remaniement.
Au mois de juillet, il y a eu un remaniement. Et là, il y en aura un autre, ça va avoir lieu lundi. Écoute, c'est pas étonnant que pendant les fêtes, Justin Trudeau a appelé ses ministres, a dit « Écoutez, si vous pensez ne pas vous représenter, laissez-moi savoir, parce que je veux avoir une équipe qui va être en place pour le dernier droit, pour les élections, des gens qui vont être utiles à la cause libérale. » Donc, est-ce qu'il y en aurait un ou deux autres? On ne le sait pas, mais c'est pas impossible.
Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu perds Bryson, tu n'as pas le choix de faire un remaniement. En tout cas, tu n'as pas le choix d'en monter un ou d'en monter une.
Sans doute un effet domino, puis c'est aussi l'occasion. Il y a des ministres qui ne performent pas beaucoup au niveau du cabinet.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Tu sais, je pense à Sohi qui s'occupe des ressources naturelles et des pipelines. On peut pas dire que ça fonctionne très bien.
Non.
Immigration, c'est Hussein qui est là.
Pas fort non plus.
Écoute, les relations avec les Autochtones, on pourra en reparler tantôt, mais la ministre Philpott, on la voit pas dans la crise actuelle. On ne l'entend jamais.
Pourtant, hein, quand on l'avait nommée, on avait dit « Oh, gros mandat ».
Mais gros mandat, mais pour l'instant, c'est, je veux dire…
Gros mandat, petit résultat pour le moment.
Pour l'instant, ça avance pas beaucoup.
OK. OK, bien, surveillez. On verra, tu le dis bien. Alors, on vient de voir le tweet, mes amis. Le tweet du diocèse de Montréal. Nous désirons clarifier que le livret est le résultat d'une initiative personnelle d'un père de famille soutenu par un document rédigé par un médecin et un prêtre. L'archevêché n'est aucunement impliqué dans l'initiative ni la publication de cet ouvrage. On pourrait rajouter, même si on en a encouragé l'achat et la lecture sur notre infolettre.
Oui, mais seulement une fois au chalet.
Donc, c'est juste un problème de communication.
Oui, Carl, tu as déjà utilisé cette ligne-là, toi, mon crapaud. Hein? OK, on s'arrête au retour. On continue parce que Paul veut nous parler possiblement d'une première exploitation de pétrole dans l'histoire du Québec. Je suis très curieux et j'espère bien qu'on aura un peu de temps pour parler du musée que les sénateurs voudraient construire en hommage au rapatriement unilatéral de la Constitution. Dans un instant. OK, on continue notre discussion politique avec Paul et Carl. Paul, parle-nous donc pétrole? Qu'est-ce que c'est ça?
Mais depuis le temps qu'on parle de pétrole au Québec, là, on a oublié qu'il n'y a jamais eu d'exploitation. On parle tout le temps de gisements, de projets, mais il n'y a jamais eu un seul puits en exploitation de pétrole au Québec. On n'a jamais eu de baril de pétrole québécois.
En Gaspésie, ils produisent des barils. Petites quantités qui sont acheminées par la suite à la raffinerie d'Ultramar à Saint-Romuald.
Je te parle d'un projet là, commercialement, un projet d'un minimum d'envergure là, commerciale.
OK, là, je te parle de petite production, effectivement.
En tout cas, là, c'est le premier.
Ça serait un projet commercialement viable.
Oui, commercialement viable. Okay. Ça s'appelle le projet GALT. On a sûrement déjà entendu
parler. Gaspésie.
Exact. C'est un petit peu à l'ouest de Gaspé, à l'intérieur des terres.
OK.
Et l'exploration est terminée. On a vu qu'il y avait un potentiel. Et là, on est rendu à l'étape des évaluations environnementales.
Ça, c'est du Junex, ça, Galt?
En partie.
Ou c'est Petrolia,
Junex. Non, c'est Junex, mais ils ont été rachetés par une société albertaine.
Oui,
donc, on
voilà.
va dire Junex.
Il y a Cuda Énergie qui est là-dedans aussi.
C'est, hein? ça, c'est okay. ça, c'est Cuda Énergie, la société albertaine, avec Junex.
Très bien.
Et donc, là, on est rendu à l'étape des évaluations environnementales. Il faut consulter la population, mais aussi, en particulier, les Premières Nations. C'est des Mi'kmaq là-bas. Et là, le nouveau ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a un dossier chaud parce que l'évaluation environnementale, elle a commencé il y a quelques jours avant qu'on trouve une entente avec les Mi'kmaq sur la façon de consulter.
Parce qu'ils considèrent
que tu procèdes dans l'ordre inverse.
Ils considèrent que c'est leur territoire ancestral, c'est ça?
Oui, donc tu vas voir les Mi'kmaq, tu leur dis comment on va faire là, pour vous consulter, puis ensuite tu lances la consultation, mais Québec a procédé dans l'ordre inverse. Et donc on voit déjà... Ils sont pas contents.
Est-ce qu'ils menacent de fermer l'accès
Non seulement ça, mais ils l'ont déjà... j'ai pas entendu parler de menaces de cette nature-là dans la dernière journée, mais il l'avait déjà fait. Même dans la phase d'exploration, il avait réussi à suspendre temporairement les travaux. Donc, s'ils l'ont déjà fait, j'imagine qu'ils sont capables de le refaire. Pour ce qui est de la population locale, c'est moins clair s'ils sont pour ou contre. Il y a eu un sondage qui avait été commandé par la MRC Côte de Gaspé et une majorité des sondés étaient en faveur.
Ouais.
Par contre, il faut dire que c'est un petit échantillonnage, puis tout dépend de la façon dont tu poses les questions. Mais chose certaine, on peut tirer comme conclusion prudente de ce sondage-là que la population n'est pas du tout, a priori, en défaveur.
Non, parce que ce gisement-là, là, j'y suis allé, moi, là. C'est, mettons que dans tous les gisements en Gaspésie là, qui pourraient éventuellement être exploités, si je ne m'abuse, c'est le moins problématique.
Oui, le plus problématique étant Haldimand. Habituellement, ce qui rend un gisement controversé, un, est-ce qu'il y a de la fracturation hydraulique? Dans ce cas-là, non. Deux, est-il proche des sources d'eau potable et des résidents? C'est le cas du gisement Haldimand, beaucoup plus proche de la ville de Gaspé, pas le cas de la ville de Galt. Si on y fait une évaluation environnementale, comme d'habitude, il va y avoir deux grandes questions. La première, est-ce qu'il y a un risque de dégâts ou d'inconvénients, de déversement ou d'inconvénients pour la population? Puis deux, de façon plus générale, pour l'ensemble du Québec. C'est quoi l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre? Je te donne deux petits chiffres. Un, on prévoit que l'exploitation se prolongerait jusqu'à 2060. Après 2050, année où on est censé avoir décarbonisé notre économie. Deux, la production totale, ça pourrait équivaloir à 42 journées de consommation de pétrole pour le Québec. Donc, quand on dit qu'on veut consommer le pétrole d'ici par rapport à ailleurs, c'est vrai, mais quand même, 42 journées
jours,
dans...
c'est plus que 10 %.
Oui, ouais. On peut débattre, c'est-tu beaucoup ou non, mais au moins, vous avez
mais
le chiffre.
Mais là, t'es-tu en train de nous dire là, que Charrette doit décider s'il va de l'avant avec une évaluation environnementale?
L'évaluation a déjà été lancée. par la ministre Chassé.
Deuxième étape, je pense, oui.
Et déjà lancée.
Elle a été lancée par Chassé.
Oui.
C'est un peu passé.
Par le ministère, là,
mais un peu passé en dessous. Mais sous la CAQ, sous le gouvernement de la CAQ.
Oui, tout à fait.
Oh. C'était un peu passé en dessous du radar, on s'entend, ça?
Oui, on était tous en vacances, Bernard.
Ah, c'est sûrement par hasard.
Ils ont profité de tes vacances. Mais oui, fait qu'il faut qu'ils essaient de. Il faut qu'ils trouvent une façon de remettre la pâte à dents dans le tube.
Ben, c'est-à-dire.
De faire une consultation dans l'ordre avec les Micmacs.
Voilà.
Parce que la consultation, on se rappellera. Trans Mountain, la cour, c'est à cause du processus de consultation bâclé.
Bon lien.
T'sais? Ouais.
Mais tu sais, c'est une obligation depuis un jugement avec des communautés en Colombie-Britannique en 2004. Là, on parlait davantage de foresterie. Depuis ce temps-là, c'est très compliqué sur les paramètres juridiques. Qu'est-ce qui fait qu'une consultation répond ou non aux critères de la Cour suprême? Et chose certaine, une certaine forme de consultation réelle de bonne foi est requise avec des gens qui ont un pouvoir décisionnel. Et c'est ce qu'on a appris, comme Carl le mentionne, dans le cas Trans Mountain.
Et les Micmacs disent qu'il n'y en a pas eu de vraie consultation. C'est ça l'affaire.
Oui, ben ils disent qu'on ne sait même pas comment on va être consulté, mais la consultation commence à peine.
OK. Carl, on s'était dit qu'on gardait du temps pour parler musée visant à commémorer le rapatriement unilatéral de la Constitution de 82, qui, je vous le rappelle, n'a toujours pas été signé par le Québec. C'est quoi cette histoire-là?
Mais écoute, on veut commémorer ce rapatriement-là. Et
Qui ça on veut?
Sénat. Le Sénat, les sénateurs, on veut... Parce qu'évidemment, le contexte, c'est le suivant. L'édifice du centre ferme. Le Sénat déménage au centre de conférence en face, l'ancienne gare ferroviaire, où a eu lieu les fameuses sessions constitutionnelles de 1982. Et donc, on veut commémorer cet événement-là, un événement en particulier. Et on peut écouter René Lévesque, à l'époque, sa réaction à cet événement qui s'est déroulé dans cet édifice.
Je dois dire que je regrette profondément que le Québec se retrouve aujourd'hui dans une position qui est devenue en quelque sorte une des traditions fondamentales du régime fédéral canadien tel qu'il fonctionne. Le Québec se retrouve tout seul.
C'est à la suite de la fameuse Nuit des longs couteaux.
La Nuit des longs couteaux qui s'est déroulée dans une cuisine. Une cuisine qui était au quatrième étage de ce centre de conférence-là. On avait Jean Chrétien avec McCurdy de l'Ontario et Romano de la Saskatchewan.
Voilà.
Ils ont fait un deal. Ils ont exclu le Québec de ce deal-là. Et l'évêque s'est fait mettre devant le fait accompli le lendemain matin. Or, cette cuisine en question, il y a eu des inondations en 2013, de la découverte d'amiante. On a démoli la cuisine. Il y a des sénateurs qui veulent la reconstruire et en faire un musée, une espèce de salle d'exposition pour qu'on soit bien au courant de ce qui s'est passé à l'époque.
Écoute.
Un moment historique.
Ils vont-tu rajouter les couteaux?
Dans une cuisine, il y a toujours des couteaux.
Il pourrait en avoir un avec sur lequel ce serait écrit...
Je me souviens.
Planté dans le dos de René Lévesque, je ne sais pas. Là, quelque chose
des produits souvenirs à vendre, Bernard. Ah. Potentiel de faire des beaux
dollars. Nos sénateurs, hein, ils ont toujours des bonnes idées. Quelle belle résolution pour 2019. Bravo, nos sénateurs, et qu'on vous aime. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Toi, on t'aime vraiment.
Ah, ben
Carl Bélanger, toi aussi, on t'aime.
Menteur.
À demain, merci. Tout le monde. Bye.
Salut.